Vacances. Le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller, merde.
Cinérama.
Y a des soleils, y a des nanas. Tarla dirada.
L'été.
On va s'enfourrer jusque là.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
Des chroniques, des blind tests et des séries sur le cinéma.
Eh bien, je dois reconnaître que vous n'êtes pas comme je m'étais imaginé.
C'est une blague.
Jamais très original dans ces moments-là.
This is Cinérama.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama en mode estival, où on laisse de côté un peu l'actualité, mais il en sera quand même question avec le film français Une affaire Turc, ce sera en toute fin d'émission. Mais avant cela, il y a nos deux séries de l'été qu'on a déjà débutées donc, bien au tout début. Toi, tu nous parles de réalisateurs qui ont conçu soit toute leur musique, soit une partie de leur musique.
Oui, là c'est un cas un tout petit peu particulier, mais néanmoins extrêmement créatif, parce que bien évidemment, on parle de David Lynch.
Et moi, je vous parlerai des true crimes, c'est-à-dire des faits divers, hein, des meurtres, qui ont nourri des films hollywoodiens. Et aujourd'hui, il sera question d'un film passé culte, Amityville, La Maison du Diable, film de 1979. Et on va d'ailleurs commencer par ça.
Hollywood and True Crime Stories.
Mon Dieu, qu'est-ce qui vous arrive?
Les faits divers qui ont nourri le cinéma.
Il est arrivé quelque chose de grave.
Une série inspirée de l'ouvrage d'Esther Hervy, publié aux éditions du Rocher.
Merci, c'est très gentil. Je n'attendais pas tant d'égards.
Tu n'as pas envie de ces délicieuses Francfort que j'ai achetées spécialement pour toi?
N'insiste pas, j'ai pas faim. Oh, dis donc, on caille ici.
Oui, tout à l'heure, il faisait frisquet, mais maintenant, il fait bon.
La chaudière marque 22, mais c'est comme s'il faisait zéro.
Tu veux que je te dise? J'ai l'impression qu'on a un courant d'air qui vient de la cave. Ça passe sous la porte.
En principe, il y avait une bonne isolation. Toutes ces dépenses vont nous saigner à mort.
Une magnifique demeure de style colonial hollandais, de grands arbres et ses deux fenêtres supérieures en quart de lune qui ressemblent à des yeux braqués sur l'océan. C'est la promesse d'une vie de famille idyllique pour George et Kathleen Lutz lorsqu'ils s'installent à Amityville sur Long Island en décembre 1975. Pourtant, 28 jours plus tard, ils fuient la maison en pleine nuit, terrifiés, abandonnant tous leurs biens. En 1979, le réalisateur Stuart Rosenberg s'empare de leur récit avec Amityville, la maison du diable, lançant l'une des franchises les plus lucratives et les plus célèbres du cinéma d'horreur. Mais derrière les murs de cette maison de cartes postales se cache un drame familial bien réel d'une violence inouïe. Et dans son livre, Esther Hervy sépare le mythe de la terrible réalité.
Judy a dit que tout allait s'arranger.
Comment elle est, ta Judy? Je veux dire, est-ce qu'elle a des yeux bleus ou des yeux verts?
Elle est très gentille. Elle me raconte tout plein de choses.
Ah oui, tout plein? Bah alors raconte.
Oh, d'abord, elle me parle du petit garçon qui avait ma chambre avant. Un jour, il a été tué.
Et puis, qu'est-ce qu'elle te raconte d'autre?
Elle a dit qu'elle veut pas que j'aille vivre dans une autre maison, parce qu'on s'amusera bien toutes les deux.
Amityville est le film de maison hantée par excellence. Il ne cherche pas la subtilité, les murs suintent un liquide noir, des nuées de mouches envahissent les pièces en plein hiver et le pauvre George Lutz, incarné par James Brolin, perd peu à peu la raison sous l'influence de forces maléfiques, finissant par ressembler trait pour trait au précédent propriétaire qui avait massacré sa famille. À sa sortie, le film terrorise l'Amérique entière, capitalisant sur l'immense succès du livre de Jay Hanson qui relatait les faits réels vécus par les Lutz. Le public est fasciné par l'idée qu'un foyer ordinaire puisse être le théâtre d'une telle infestation démoniaque.
Faites-moi sortir! Amy, qu'est-ce qu'il y a?
Faites-moi sortir!
Oh mon Dieu!
J'ai enfermé là-dedans! La porte a claqué sur moi et j'étais coincée là!
Cette porte n'a pas de serrure.
Elle voulait plus s'ouvrir.
Regarde.
Tiens, regarde.
Enfin, je vous dis qu'elle s'ouvrait pas! Pourquoi tu s'ouvrais pas, toi?
Jackie!
Pourquoi tu s'ouvrais pas?
Jackie! Et toi, pourquoi tu l'as laissée enfermée là-dedans, hein? Tu l'as entendu cogner.
C'est Judy qui voulait pas.
Judy? Qui est Judy?
C'est mon amie, celle qui vient jouer avec moi.
Bon sang, on va pas écouter toutes les histoires de cette petite, non? Et vous deux, on vous a pas dit d'aller au lit? Allez, dégagez! pas que tu pourrais être un peu plus sévère avec tes gamins?
Fais voir tes mains. Non, c'est rien, je vais te soigner.
Georges, il m'a grondé très fort.
Mais tu aurais dû ouvrir la porte.
Judy, elle le déteste, Georges.
Alors pour comprendre le mystère d'Amityville, l'auteur nous rappelle qu'il faut remonter un an avant l'arrivée des Lutz, dans la nuit du 13 novembre 1974, au 112 Ocean Avenue, à 3h15 du matin pétante, Ronald DeFeo, junior, âgé de 23 ans, se lève, se saisit d'une carabine de calibre 35 et abat méthodiquement ses parents ainsi que ses quatre frères et sœurs pendant leur sommeil. Cela fait 6 victimes au total. Lors de son procès, Butch DeFeo change plusieurs fois de version. Il tente d'abord de plaider la folie, affirmant que des voix venues de la maison lui ordonnaient de tuer. Et plus tard, les expertises psychiatriques et les enquêtes policières démontreront qu'il s'agissait plutôt d'un acte de sang-froid commis par un jeune homme instable, dépendant à l'héroïne et motivé par l'argent des assurances de ses parents. Ronald DeFeo Jr. sera condamné à 6 peines consécutives de 25 ans de prison et donc il mourra en prison en 2021. C'est sur ce terreau macabre que la famille Lutz achète la maison à un prix dérisoire un an plus tard. Leurs 28 jours d'occupation donneront naissance à la légende paranormale. Bruit de pas, lévitation, métamorphose, des phénomènes qui feront l'objet d'une enquête ultra médiatisée par les célèbres démonologues Ed et Lorraine Warren.
Et nous ne détectons pas partout la présence de Satan.
Rassurez-vous, moi non plus.
Nous sommes des modernistes. Mais là, nous pensons que vous allez trop loin. À vous entendre, on reviendrait à l'ère médiévale.
Je me veux moderniste aussi, mais pas aveugle. J'ai étudié longuement le dossier de ces meurtriers, surtout celui du jeune garçon de 20 ans qui a tué ses parents et ses quatre frères et sœurs. J'ai suivi son procès aux assises, et il a certifié que des voix lui avaient enjoint d'agir, des voix qu'il entendait chez lui, des voix qui lui ont dit de passer aux actes. En ce qui me concerne, je soutiens les avoir entendus aussi. J'ai senti une présence dans cette maison. J'affirme qu'il y a une présence étrange dans cette maison.
Révérend, un assassin sur deux dit la même chose. Des voix m'ont fait agir.
Mais je les ai entendus, moi. Je ne les ai pas inventés, ces voix.
Dans son ouvrage, Esther Hervy analyse de manière très critique la bascule entre le fait divers et le film. Le long-métrage de 79 prend pour argent comptant le récit des Lutz. Pour l'anecdote, le film montre des phénomènes spectaculaires comme des portes arrachées de leurs gonds ou des fenêtres brisées. Or, les journalistes et enquêteurs qui ont fouillé le dossier après le départ de Lutz ont prouvé que la quincaillerie et les vitres de la maison étaient d'origine est totalement intacte. Le livre met en lumière ce que le cinéma a soigneusement occulté, la dimension financière et marketing de l'affaire. Quelques années après la sortie du film, l'avocat de Ronald DeFeo, William Weber, avouera autour d'une table et de quelques verres de vin avoir inventé une grande partie de cette histoire de fantôme avec les époux Lutz, dans l'espoir de décrocher un contrat d'édition juteux et pour Weber de rouvrir le procès de son client en invoquant une influence démoniaque réelle. Alors qu'Amityville soit la maison du diable ou celle d'une gigantesque supercherie commerciale, le film de Stuart Rosenberg reste un jalon majeur du cinéma de genre. Il a réussi à ancrer l'horreur non pas dans un vieux château gothique européen, mais dans la banlieue résidentielle américaine la plus rassurante. La véritable tragédie d'Amityville restera cependant celle de la nuit du 13 novembre 1974. Un drame humain que les projecteurs d'Hollywood ont parfois tendance à faire oublier. En tout cas, moi, c'est un film qui m'a terriblement marqué puisque c'est le premier film d'horreur que j'ai vu.
Oui, il est très élégamment mis en scène par Rosenberg. Alors, il faut bien avouer aujourd'hui qu'il paraît un petit peu sage. Mais c'est comme tu l'as justement dit, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans un château gothique comme on avait l'habitude, on va dire, jusqu'à Psychose à peu près, d'Alfred Hitchcock. On est dans un cauchemar en fait périurbain américain. C'est ça qui, je pense, a vraiment enflammé l'imagination. Et il faut savoir que Johnson, fort du succès de son bouquin, a écrit, je pense, un encore meilleur livre, parce que cette fois-ci, il est un peu déconnecté de tout ce qu'il est censé rapporter journalistiquement parlant, et ce bouquin, un titre plutôt évocateur, ça s'appelle 666.
Ah bah oui, effectivement. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau film culte, mais plus grand public celui-ci, Le silence des agneaux. Nous parlons de notre deuxième série consacrée au réalisateur qui compose aussi de la musique. Et aujourd'hui, c'est David Lynch.
Merci, messieurs, c'était très bien. C'était très bien. C'est de la bouillie, tout ça.
Cinérama.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons.
Tous les réalisateurs dont nous parlons dans cette série composent eux-mêmes la musique de leurs films. Alors, sans surprise, l'immense David Lynch occupe, oh comme c'est étonnant, une place bien à part dans cette sélection. Alors, non seulement parce qu'il est également peintre, photographe, musicien et aussi designer sonore, mais surtout parce qu'il ne compose presque jamais des mélodies au sens traditionnel du terme. Alors, chez lui, la musique, c'est une matière, c'est une espèce de souffle, voire une vibration gutturale, comme un bourdonnement qui s'insinue lentement dans l'esprit du spectateur. Et si on pense forcément immédiatement à Angelo Badalamenti, lorsqu'on évoque son cinéma, on oublie souvent que Lynch n'a jamais cessé de composer lui-même, depuis Eraserhead jusqu'à ses albums personnels. Au fond, il ne cherche pas tant à écrire des chansons, il cherche à fabriquer des rêves, ou plutôt des cauchemars éveillés. Premier long métrage, premier choc avec donc Eraserhead, tant le film est déjà une expérience sonore avant même d'être une expérience visuelle hors norme. Les grondements industriels, les souffles, les machines, les résonances métalliques envahissent l'espace, anticipant le cinéma bio-organique de Shinya Tsukamoto et de son Tetsuo. De l'autre côté du radiateur, on ne sait plus très bien ce qui relève de la musique, du bruit, voire même du décor total. Cette frontière brouillée est fondamentale. Lynch comprend très tôt que des sentiments comme la peur ne naissent pas uniquement de ce que l'on voit, mais aussi de ce qu'on entend. Là où Hitchcock utilisait les violons, par exemple, de Bernard Herrmann pour provoquer l'angoisse, Lynch préfère installer un environnement sonore permanent. Plus qu'une partition, il construit un véritable climat mental, un monde alternatif où le spectateur perd progressivement tous ses repères. Lorsque Twin Peaks apparaît à la télévision, beaucoup découvrent les magnifiques thèmes composés par Angelo Badalamenti. Pourtant, la personnalité musicale de la série naît d'un dialogue permanent entre les deux hommes. Lynch décrit des émotions, des couleurs, des sensations. Badalamenti, lui, improvise au piano, Lynch l'oriente jusqu'à trouver l'atmosphère exacte. Leur collaboration ressemble moins à une relation réalisateur-compositeur qu'à un véritable duo de musiciens. Cette manière de travailler explique sans aucun doute pourquoi les musiques de Twin Peaks semblent indissociables des images. Elles ne soulignent pas les scènes, elles les habitent. Derrière chaque note se cache une sensation de nostalgie, de mystère et toujours de menace diffuse. Chez Lynch, le son est un personnage invisible et l'invisible est littéralement la clé du mystère de l'enquête que mène l'agent Dale Cooper dans cette petite ville aux sombres ramifications. Avec Inland Empire, David Lynch franchit une nouvelle étape. Tourné en vidéo numérique, le film abandonne presque toute logique narrative traditionnelle. Les frontières entre rêve, fiction et réalité déjà évoquées disparaissent totalement pour perdre un peu plus le spectateur dans la face cachée d'Hollywood. Alors, thème, on l'a vu, hein, déjà abordé dans Lost Highway et Mulholland Drive, ici, ben, on atteint le point terminal de ce cauchemar. Les rythmes disparaissent, les mélodies s'effacent, laissant place à des nappes électroniques, des pulsations sourdes et des sons qui semblent, on l'a entendu, surgir des ténèbres de son sujet. Lynch ne cherche plus à illustrer son histoire, il compose directement l'état mental dans lequel il souhaite plonger son spectateur à travers les déambulations de Laura Dern. On peut dire, hein, que peu de réalisateurs auront autant utilisé de manière aussi efficace le son pour modifier notre perception du temps et de l'espace. Love is the name. Lynch compose pour ses films, il poursuit également une véritable carrière musicale de son côté. Ses albums comme Crazy Clown Time ou The Big Dream, dont on vient d'écouter la chanson éponyme, prolongent exactement le même univers. On y retrouve les mêmes basses hypnotiques, les mêmes guitares saturées, les mêmes voix filtrées qui semblent flotter entre le blues, l'électronique et le rêve américain, plutôt en décomposition. Ces morceaux pourraient accompagner ces films, mais l'inverse est tout aussi vrai. Chez Lynch, cinéma, peinture, photographie et musique procèdent d'une seule et même démarche artistique, et chaque discipline nourrit les autres jusqu'à devenir impossible à distinguer. David Lynch est probablement le plus singulier des réalisateurs-compositeurs de cette série. Là où on verra Charlie Chaplin compose le mouvement, là où Eastwood a travaillé le silence, Amenabar le chemin vers la révélation et Figgis l'improvisation, Lynch compose sur le souffle de l'invisible. Il installe une vibration qui continue de résonner longtemps après la fin du film. Parce que chez lui, le son nous ensorcelle et nous invite à habiter l'œuvre d'art à laquelle nous venons d'assister à la manière d'un happening collectif.
Et tout ça, ça donne envie de revoir tous les films de Lynch. Merci, on se retrouve la semaine prochaine donc avec un nouveau réalisateur, compositeur.
Oui, je vous parlerai de Mike Figgis.
Mais on reste encore un petit moment avec David Lynch. On se replonge dans sa filmographie avec la rediffusion d'un blind test que nous avions donné dans une précédente émission. 5 extraits, 5 titres de films à trouver.
Vous avez tous lu ou entendu parler des enregistrements
Cinérama.
Mais peu savent exactement ce que signifie cette formule.
Rediffusion.
Premier extrait facile.
Docteur Yue, avez-vous des informations sur les vers de la planète Arrakis ?
J'ai obtenu un livre bobine sur un petit spécimen qui ne faisait que 125 mètres de long.
Seulement ?
On a pu observer certains vers mesurant environ 450 mètres dans le désert profond. Mais nous vivons loin des sables, à Arrakin. La ceinture désertique et la zone polaire australe sont frappées d'interdiction.
Comment les Fremen survivent-ils là-bas ?
Nous en savons très peu sur les Fremen. Ils vivent dans le désert profond et un petit nombre dans les villes. Leurs yeux sont bleus sur fond bleu.
Ah, leurs yeux. Oui. Leur sang est saturé par le mélange qu'ils prennent en abondance.
Quel est ce mélange ? Vous le saurez en regardant
Dune.
Eh oui, ça c'était facile. David Lynch avait fait un premier montage de 4 heures qui a fortement déplu au producteur qui en réclamait 2 heures. Voilà. Donc
c'est,
il a dû...
c'est le plus mauvais film de Lynch. C'est son seul mauvais film d'ailleurs.
Deuxième extrait.
Avec les pièces et la main-d'œuvre, le total se monte à $247.
Je trouve que l'addition est un peu lourde pour un travail léger. Vous ne trouvez pas? Je n'ai que les yeux d'un vieillard, mais... C'est des pneus neufs, ça?
Bon, écoutez, ce sont des pneus de récupération, mais les sculptures sont bonnes.
Mes amis, vous me faites payer pour du bon ou pour du neuf?
Thorvald?
Là, on peut vous faire un petit prix.
Eh bien, je crois que la réduction devrait être d'une trentaine de dollars. Votre stylo est du même avis.
C'est passionnant.
C'est une négociation, Marine. C'est une négociation, mais importante parce que c'est... C'est quoi le film?
Une histoire vraie.
Voilà,
une histoire du vieux monsieur qui part...
avec sa tondeuse.
Avec sa tondeuse,
voilà,
ouais.
À tondeuse à gazon, donc il est question de cette tondeuse. Et tout au long du film, eh bien, il est obligé de négocier parce qu'il a très peu d'argent. Et donc ça, c'était assez important parce que ce n'est pas la première fois qu'il négocie dans ce film. Film, pour ma part, j'ai été assez étonné. J'ai mis longtemps à le voir. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit... Mais, quand même, quelle réussite.
Enfin, j'ai trouvé ça très, très bien, c'est très très curieux, très simple.
Du début à la fin. Ouais. Donc, une histoire vraie, sortie en 99.
Oh, Franck, voilà une bonne surprise et tu as amené tes amis. J'adore les surprises. Prends un siège. Quelle suavité, tu es un garçon rare, tu sais, tu es une sorte de miracle. Tu veux une bière? Avec joie, Franck. Darling. Darling, tu nous apportes des verres. Je veux boire une bière avec Franck. Fais vite, mais asseyez-vous donc.
Cher Ben, ça va chez toi?
Bien, très très bien. Et chez vous?
Foutrement bien. Foutrement bien.
Facile aussi, hein, Manu.
Bah, c'était Blue Velvet. Hein.
Film de 86, voilà. Et on en écoutait bon, la version française de Dennis Hopper, mais plutôt bien fichu. Voilà, je me pose si on raconte l'histoire de Blue Velvet. C'est un film, c'est déjà un film à énigmes. Voilà. Et on va eh bien, en écouter un autre extrait d'un film à énigmes.
Je veux que tu te remettes au boulot demain au studio. De toute façon, tu voulais remplacer l'actrice principale. Auditionne pour le rôle le plus de filles possible. Quand tu verras la fille qu'on t'a déjà montrée ce matin, tu diras « C'est elle, c'est la fille ». Le reste de la distribution, ça dépend de toi. Mais le premier rôle féminin, le choix de l'actrice qui jouera ce rôle-là, c'est pas de toi que ça dépend. Après ça, tu me reverras seulement une fois. Si tu te conduis bien. Ou bien deux fois. Si tu te conduis mal. Bonsoir.
Voilà. C'est facile, ça aussi.
Je crois qu'elle s'est mal conduite, non?
Non, alors c'est le réalisateur. C'est le réalisateur qui rencontre le cow-boy.
C'est Mulan Drive.
C'est Mulan Drive, voilà. Avec ce cow-boy qui, bon, qui explique, parce que ça, c'est un gimmick qui revient dans le film, This is the Girl, voilà. C'est plus le réalisateur qui a la main mise sur son film. On lui impose une fille, une actrice, voilà. Histoire d'amour hein, dans la cité des rêves, enfin on sait pas trop, en tout cas un gros gros film à énigme sorti en 2001, prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Dernier extrait.
Cooper, je te présente en revenant Philip Jeffries, tu as dû en entendre parler à l'école des cadres.
Je vous le dis tout de suite, il n'est pas question de parler de Judy, je refuse d'entendre un seul mot sur Judy, un seul, je refuse de la mêler à cette affaire.
Gordon, je sais Cooper.
Qui croyez-vous qu'il soit, celui-là?
Les coups que t'as pris sur la tronche t'ont pas arrangé.
Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là, Albert? C'est mon agent spécial, Dale Cooper. Pour l'amour du ciel, Jeffries, où étiez-vous passé? 2 ans qu'on ne vous a pas vu. 2 ans!
Bien sûr, je vais tout vous dire. Mais je n'ai guère de temps. Oh, mais croyez-moi, j'ai bien suivi. Et nous vivons dans un rêve.
Le monde parallèle, ça a été trouvé. C'est
Twin Peaks.
This is Cinerama. 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 Cinerama.
Vous écoutiez la rediffusion d'un blind test sur David Lynch. Allez, on passe à la partie actualité de cette émission en parlant d'une affaire turque, un avocat au sommet de sa carrière, un jeune homme en détresse et une affaire de corruption qui menace de tout emporter. Ce film mêle thriller judiciaire et questionnement sur l'identité.
Cinérama. Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Quand on est un réalisateur issu de l'immigration, soit né dans un autre pays ou avec des parents nés dans un autre pays, le premier film est souvent celui du témoignage de ce qu'on a vécu. Les exemples sont nombreux hein, dans le cinéma français, d'Abdelatif Kechiche à Rachid Bouchareb en passant par Rabah Hammer Zaymesh. Voilà un nouvel exemple avec Hüseyin Aydin Gursoy qui avec une affaire turque, vous le devinez, va nous faire entrer dans la communauté turque. Une communauté qu'on voit bien moins hein, que la communauté maghrébine dans le cinéma français, alors beaucoup plus dans le cinéma allemand. Pourtant, nous dit le réalisateur, c'est une des communautés les plus présentes en France. On est près de 700 000 à être turc ou issus de cette immigration. J'avais envie de raconter leur histoire, de les faire exister à l'écran. C'est un exercice inédit dans le cinéma français. C'est ce qu'explique le réalisateur, donc dans le dossier de presse. Et il a plutôt raison.
Ça va pas te plaire, il faut que je récupère le client pour boucler les dernières étapes. Elle refuse de bosser avec un avocat turc. Mais ça n'a rien à voir avec ton travail. Baba,
geldin mi sen de?
Aslında biliyor musun burada da avukata ihtiyacımız var.
Je suis content d'être là.
C'est bien de se retrouver comme avant.
Hüseyin Aydin Gursoy ne s'en cache pas, une affaire turque et à travers mon personnage de Mathieu, je raconte une expérience qui résonne avec la mienne, celle d'un enfant turc arrivé en France et ayant grandi avec sa famille dans une communauté d'immigrés. C'est ce qu'il raconte encore une fois dans ce dossier de presse. Alors dans ce film, on suit Mathieu, avocat brillant et déterminé qui s'est éloigné de sa communauté turque pour grimper l'échelle sociale. Mais un événement va l'en rapprocher bien malgré lui. Un jeune turc qui est dans une situation précaire, fils d'ami de ses parents s'est fait agresser par un attaché parlementaire. Sa sœur lui demande donc de l'aider, ce qu'il va faire, mais plutôt que de chercher l'intérêt de son client, il va plutôt chercher son propre intérêt, car son affaire peut lui permettre d'en résoudre une bien plus juteuse qui pourrait bien lui permettre de devenir non plus employé d'un cabinet d'avocats, mais associé.
Je peux te demander un service? C'est un jeune du quartier. Il s'est fait agresser par un client, mais genre raciste, tu vois.
Moi, je veux qu'il paye. Je peux faire confiance à personne d'autre.
Muller, c'est le neveu de l'ancien ministre de l'Intérieur. Il est intouchable.
Mais la victime a une preuve. Il y a une vidéo.
Si on a la garantie que l'affaire est enterrée, c'est bon pour nous.
Le jeune, je m'en occupe.
Le film ne se contente pas de la description d'une communauté turque qui, comme beaucoup de communautés, tente de se souder et s'entraide. Hein. Le réalisateur choisit de nous plonger dans un thriller dans lequel le personnage principal se retrouve dans une situation intenable. Transfuge de classe, émanant de la communauté turque, donc Mathieu s'appelait auparavant Mustapha. Et il veut tout faire pour rester dans son milieu parisien plutôt que de revenir dans sa communauté dans l'est de la France. Il y a un vrai contraste entre les deux mondes hein, que la mise en scène surligne. Quand il est à Paris, il y a des relations impersonnelles, mais quand il revient dans sa ville d'enfance, il y a la présence de la communauté, les règles auxquelles il doit se plier, comme aller à la mosquée. Il ressort que Mustapha, devenu Mathieu, peine à trouver sa place dans ce milieu d'affaires et dans sa communauté. C'est tout l'enjeu hein, du film de Hüseyin Aydin Gursoy.
Est-ce que tu réalises l'ampleur de ta connerie? T'as intérêt à régler le problème, sinon t'es mort.
Le gars qui veut se faire passer pour un bon français.
Ouais.
T'as trahi ta communauté comme une merde.
C'est vrai qu'avec ta petite gueule de bœuf, tout ça peut aider.
Je te demande un truc, on peut pas compter sur toi.
Tu peux pas compter sur moi. C'est jamais assez bien pour cette famille.
On sera jamais vraiment chez nous, ça. Donc soit t'acceptes les règles, soit tu te fracasses contre le mur.
Le choix du thriller politique n'est pas inintéressant. Dans une affaire turque, une affaire de violence nous mène à une affaire de corruption. Cela permet de poser tout un tas de questions morales qui rendent l'adhésion au personnage de plus en plus délicate. Un personnage qui, tout du long, va avoir beaucoup de mal à choisir son camp jusqu'à devoir assumer pleinement ses actes. Premier film, une affaire turque est bien menée, avec le personnage de Ludovic Duclari, qui semble imperturbable, hein, jamais il ne rit, et dont on sent qu'il est tiraillé en lui-même. Cela laisse toute la latitude au spectateur d'imaginer ce qu'il peut vivre. Une affaire turque est en salle depuis le 12 août.
Au revoir. Ça s'impose.
Mais pour quelle raison?
Qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Je ne connais pas la réponse moi-même. Comme vous êtes bizarre.
Oui.
C'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie.
Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec nos deux séries. Toi, tu nous parleras donc d'un réalisateur-compositeur.
Oui, le Britannique Mike Figgis.
Nous parlerons aussi de La Palme d'Or, Fjord de Christian Mungiu. Et puis, je vous parlerai du Silence des Agneaux dans la série True Crimes à Hollywood. À la semaine prochaine.